Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Marco Leridon et Rosalie Suc, mais aussi Hélène Lefrançois et Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Adèle Caglar. Deuxième temps de notre série consacrée au chantier diplomatique, au grand chantier diplomatique de la rentrée à l'occasion de l'ouverture de la 74e Assemblée Générale de l'ONU, après nous être intéressés hier au nouveau rapport de force au Moyen-Orient. Avant d'aborder demain la question des droits de l'homme et jeudi la guerre commerciale, concentrons-nous sur le climat. Urgence climatique contre rivalité géopolitique, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Nous devons faire quelque chose. Ce que je vois, c'est des responsables politiques dans notre pays qui ne font rien pour le climat. Je suis venue pour dire que ça suffit.
Nous ne sommes pas allés à l'école. Nous avons laissé notre éducation pour venir ici, rappeler que l'école n'a aucune importance si nous ne pouvons plus survivre.
You have stolen my dreams, my
Vous avez volé mes rêves
with your empty et mon enfance.
Avec vos mots vides de sens.
I'm one of the lucky ones.
Et encore, je fais partie des chanceux.
People are suffering.
Il y a des gens qui souffrent.
People are dying.
Des gens meurent.
Entire
des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous
are
sommes au début d'une extinction de masse.
Extinction.
Et la seule chose dont vous parlez, c'est d'argent et de contes de fées qui vont une croissance économique éternelle.
How dare you?
Comment osez-vous?
Pour la première fois, l'ouverture de l'Assemblée Générale a été précédée de deux sommets exceptionnels sur le climat, l'un réunissant la jeunesse samedi et l'autre les chefs d'État hier. Hier, précisément, la jeune Suédoise qu'on entendait à l'instant, Greta Thunberg, devenue la nouvelle égérie internationale du militantisme écologique, s'est adressée aux responsables politiques lors de ce sommet climat, déplorant leur inaction et les appelant à se ressaisir. Mais du côté des chefs d'État, la situation est pleine de réserves et de retenues. C'est le moins qu'on puisse dire. Si la plupart affichent leur bonne volonté en la matière, l'unanimité n'est pas atteinte pour autant, comme le rappellent les régulières sorties climato-sceptiques de Jair Bolsonaro ou de Donald Trump, par exemple, ce dernier ayant finalement fait une très rapide et muette apparition à la réunion consacrée au climat d'hier. De surcroît, les présidents américains et brésiliens ne sont absolument pas les seuls à refouler les discussions sur le climat, puisque sur les 136 chefs d'État présent à New York, seule une soixantaine s'est rendue à ce pré-sommet. Quant à ceux qui répondent présents et appellent à renforcer la mobilisation, comme Emmanuel Macron par exemple, beaucoup se trouvent pris au piège de leurs intérêts nationaux et peu entreprennent une action à la hauteur de leur discours. Ce succès très relatif, donc, illustre bien une nouvelle fois peut-être les limites de la diplomatie climatique entre intérêts divergents, rivalités géopolitiques, la moindre déclaration commune demande des jours, des semaines, des mois, des années, parfois de pourparlers. Alors que s'est-il passé lors de ce sommet exceptionnel sur le climat d'hier? Peut-on parler d'avancées notables qui bouleversent l'horlogerie de la diplomatie climatique? Est-ce que la mobilisation populaire aussi, actuelle, peut-être inédite, pourrait enfin pousser les États à agir collectivement? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord, Amida en bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne des sciences, directrice de recherche émérite au CNRS. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le sujet, notamment co-auteur avec Stéphane Aïkout de Gouverner le climat, quel futur possible, 20 années de négociations internationales qui étaient parues au Presto Sciences Po. Jean-Paul Maréchal, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes vous maître de conférence à l'Université Paris-Sud, un spécialiste de l'économie du climat. Vous avez notamment dirigé un ouvrage intitulé « La Chine face au mur de l'environnement » qui était paru aux éditions du CNRS. Et la Chine, il en sera évidemment question. Amida, ces derniers mois, on a énormément parlé de cette jeune fille qu'on vient d'entendre, Greta Thunberg. Elle est extrêmement active sur la scène politique, diplomatique. On l'a vu devant les eurodéputés à Strasbourg. On l'a vu devant notre Parlement ici. On l'a donc vu à l'Assemblée générale des Nations unies, avec ce discours plein d'émotions, même peut-être plein de colère d'ailleurs. Comment osez-vous, a-t-elle dit. C'est quoi? C'est seulement un phénomène médiatique ou vous pensez qu'elle peut réellement bousculer l'agenda de la diplomatie climatique?
Bousculer l'agenda de la diplomatie climatique, ça, c'est, il a tellement d'inertie dont on va sans doute parler, tellement de contradictions que je n'ose l'espérer. Mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, et c'est vrai depuis, disons, deux ans, on assiste de façon vraiment assez surprenante à une accélération de la conscience climatique internationale, de la conscience du risque, de l'alerte, etc. Ça, on pourra en parler, il n'y a pas que l'action de Greta Thunberg. Il y a bien sûr aussi les nouveaux rapports du GIEC qui sont sortis, les rapports spéciaux comme le rapport à 1,5 degré, etc. Et puis, il y a les événements climatiques que l'on a, extrêmes, que l'on a observés et dont on a souffert partout, dans diverses régions du monde, dans toutes les régions du monde, pratiquement, ces 18 derniers mois. Et donc, tout ça contribue. Et puis, je crois qu'il y a effectivement un phénomène générationnel. Et là, ce n'est pas seulement médiatique. Elle est arrivée, avec effectivement la façon dont elle répète un peu les mêmes choses. Elle ne rentre pas dans la subtilité des analyses et des contraintes diverses, politiques, économiques, financières, etc. Des spécialistes. Elle répète son message, mais ceci parle aux jeunes générations. Et quand même, les manifestations des vendredis l'année dernière et de ceux qui a commencé en septembre, là cette fois c'était beaucoup à New York, mais ça a été aussi à Berlin, et en Allemagne, enfin dans divers pays, témoignent qu'il y a vraiment un phénomène générationnel nouveau.
Et d'ailleurs, quand on regarde les études d'opinion, elles montrent parfaitement précisément cette fracture générationnelle.
Absolument.
Dont vous parlez. En tout cas, s'agissant de la France, c'est très clair, les jeunes ont une conscience climatique plus prononcée que leurs aînés. Jean-Paul Maréchal.
Alors, moi, je serais plus réservé sur le rôle de Greta Thunberg, mais j'ai pas forcément envie de m'étendre sur le sujet, puisque finalement, toute critique de Greta Thunberg apparaît comme iconoclaste. Donc, c'est pas absolument nécessaire.
Vous pouvez formuler une critique, hein.
Non, mais parce que ça me semble pas très intéressant. En revanche, à propos de la...
Parce qu'elle ne produit aucun effet sur la question de la diplomatie climatique.
Oui, voilà, c'est parce ça. Que votre sujet, c'était justement ça. C'était la question de la diplomatie climatique. Et ce que je pense, c'est que on peut parler effectivement de diplomatie climatique, mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en fait les négociations climatiques sont simplement une facette des négociations en fait entre les États qui portent sur une foule de sujets. Bon, et que d'ailleurs Amy Dahan l'a bien montré dans le livre qu'elle avait publié il y a quelques années, c'est que on ne peut pas comme ça désencastrer les négociations climatiques de l'ensemble des négociations sur le commerce, sur la finance, sur l'énergie, etc. Et que de ce point de vue-là, il y a évidemment une très grande inertie, mais tout simplement parce que les problèmes sont reliés. Et justement, pour revenir sur ce que disait Ami, lorsqu'elle dit, elle n'entre pas dans les subtilités. Et d'ailleurs, là, je voudrais être très clair là-dessus, c'est que ça me paraît tout à fait normal que une enfant de 16 ans n'entre pas dans la subtilité des négociations internationales. Simplement, comme le disait quelqu'un il y a bien longtemps, Dieu est où le diable est dans le détail. C'est-à-dire que c'est précisément dans ces interconnexions entre les différents champs des relations internationales que se situent justement les blocages. Et que donc, aujourd'hui, effectivement, si la Chine ne bouge pas, ou si la Chine n'avance pas suffisamment vite, c'est l'ensemble du climat qui se détériore.
Non, mais il y a une critique, moi, que j'ai trouvée intéressante, c'est celle qui a été formulée par Emmanuel Macron, qui a répondu à Greta Thunberg, qui lui a dit d'abord... pas directement à elle, mais qui a dit à cette jeunesse qui se mobilise qu'il fallait davantage mettre la pression sur les États qui bloquent, nommant directement par exemple la Pologne s'agissant de l'Europe, et aussi rappelant que toute position très ou trop radicale risquait d'antagoniser, c'est le terme qu'il a utilisé, nos sociétés. Voilà une formulation peut-être d'une critique des positions de Greta Thunberg qui peut être effectivement fertile, Amy Dahan.
Oui, elle peut être fertile, mais elle peut être aussi un prétexte à
l'immobilisme.
À l'inertie et à l'immobilisme, absolument. Parce que il faut voir que les pressions, par exemple, que Greta Thunberg a pu provoquer, et le mouvement qui se passe, par exemple, en Allemagne en ce moment. Il y a eu 1 million de manifestants le week-end dernier. Eh bien, ça, c'est, on avait pu le sentir dans d'autres élections, dans les élections européennes, en Allemagne, où les écologistes deviennent la deuxième force, etc. Et d'une certaine façon, le gouvernement allemand, maintenant, commence à présenter un plan sur le climat, alors que Madame Merkel, depuis plusieurs années, parler, il y avait beaucoup de parlotte, mais très très peu d'action.
Là, on vient d'annoncer un investissement de 1 000 milliards de dollars d'euros, d'investissement.
Exactement. Et Or, il est évident que les entreprises allemandes, etc., ont été totalement, ont joué l'hypocrisie totale. On sait très bien ce qui s'est passé avec les questions de pollution, etc. Et le gouvernement allemand a protégé tout cela. Donc, parce que c'est le motto de la puissance allemande, sa puissance industrielle et exportatrice. Aujourd'hui, elle est remise en question. Donc je crois que ça a une importance politique majeure, ces questions-là.
Jean-Paul Maréchal, vous vouliez encore réagir?
Oui et non. Enfin, c'est-à-dire que ce sur quoi je voulais finir, c'est que les phénomènes de blocage que vous évoquiez tout à l'heure résultent aussi de la structure d'interaction entre les États à l'échelle internationale. Hein, c'est-à-dire que, effectivement, moi je suis tout à fait favorable à ce qu'on mette la pression sur les États pour lutter contre le changement climatique. Et d'ailleurs, s'il y a une prise de conscience aujourd'hui de la jeunesse, et encore faudra entendre ce qu'on met là-dedans, c'est aussi parce que vous avez des gens depuis des années et des années, ont alerté sur la réalité du changement climatique. Donc je pense qu'en plus, voilà, une espèce d'analyse comme ça, en disant il y a la jeunesse contre les adultes, bon, témoigne un peu de la puérilité, d'une certaine façon, de présenter médiatiquement les choses.
Je n'avais pas présenté les choses comme ça, mais...
Non, mais ce n'est pas à vous que ça s'adresse, en l'occurrence.
Oui, mais ceci dit, la question précisément de la pression sur les États qui bloquent, il y a deux types de pression. Il y a la pression des citoyens, et puis il y a la pression des chefs d'État éventuellement. On peut s'interroger sur la manière dont Emmanuel Macron, hier, a pointé du doigt la Pologne. Ce n'est pas du tout évident que ça soit diplomatiquement intéressant, parce qu'on sait qu'il y a des dissensions au sein de l'Europe, et notamment sur la question de la neutralité carbone, qui veut, qui ne veut pas l'atteindre à l'horizon 2050. On sait que les Polonais font partie des États qui bloquent. Ce n'est pas du tout évident qu'avec des messages comme ceux-là venant d'Emmanuel Macron, la Pologne accepte d'aller vers la neutralité carbone. Non, mais voilà peut-être une maladresse diplomatique, évidemment, en réalité.
Non, personnellement, non.
Vous pensez que c'est une bonne manière de mettre la pression sur la Pologne?
Je pense en tout cas que, et c'était très net au cours de la COP de Katowice l'année dernière, il était clair que dans les ONG, le mouvement citoyen international, etc., demandait que l'Europe aille plus loin. Et les ONG européennes le demandaient. Or, il est certain que si l'Europe ne se déclare pas pour la neutralité carbone en 2050, et ce qui implique une accélération des efforts des pays européens, c'est bien parce qu'il y a quelques pays charbonniers, dont la Pologne, qui s'y opposent.
Je ne remets pas ça en cause. Je dis simplement que ce n'est pas pareil pour un État comme la Pologne de se voir accusé par sa propre opinion ou par les opinions générales et par un chef d'État. En particulier quand on connaît la nature du régime polonais. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, je comprends très bien. Je voudrais dire une chose. Je ne me situe pas et je n'apprécie pas trop ce mot de diplomatie climatique.
D'accord.
C'est-à-dire, je ne me situe pas dans exactement ça. J'ai effectivement publié des choses sur la gouvernance climatique internationale et ce processus qui s'est développé pratiquement maintenant depuis le début des années 90. Mais ce n'est pas que de la diplomatie, ce n'a jamais été que de la diplomatie. Je considère que si je fais le bilan de cette gouvernance depuis presque 30 ans maintenant, et je l'ai écrit, nous l'avons écrit dans ce livre, le off est aussi important que le in. Le in a été extrêmement lent, extrêmement procédural, etc. Et il a un peu avancé, et principalement bien sûr à l'accord de Paris, parce qu'il y a eu aussi... tout ce off qui s'est passé, cette alliance qui a réussi à s'établir avec les pays en développement pauvres qui au début ne comprenaient pas ces enjeux du climat et même étaient assez sceptiques au tout début et qui, grâce à l'action à la fois des scientifiques, qui ont été évidemment majeurs dans leur travaux et leur alerte, mais aussi leur travail pédagogique et avec les ONG. Donc tout ça, ce n'est pas que de la diplomatie du tout. C'est un rapport de force qui évolue très lentement au sein de cette arène. C'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter de cette arène. Moi, je sais que l'année dernière, après Katowice, c'était tellement bloqué, tellement procédural, tellement lent, que je disais, bon, ces COP, il faudrait qu'elles se réunissent peut-être tous les 4 ans ou tous les 5 ans maintenant. Chaque année, ça ne sert plus à rien. Effectivement, d'ailleurs, on attend quoi? La prochaine qui aura lieu dans 2 mois au Chili, mais la suivante à Glasgow en 2020, fin 2020, où depuis 5 ans, on sait que c'est à ce moment-là qu'on demandera aux pays de rehausser leurs émissions. Mais pourquoi dire tous les 5 ans, c'est dans 5 ans ?
On comprend qu'il y a peut-être quelque chose à revoir dans le calendrier. Jean-Paul Maréchal, je vous laisse réagir. Et puis, Amida, on disait, il y a le in et puis il y a le off. Là, il faut dire un tout petit peu quand même du in, de ce qu'on a entendu hier, les échos de New York. On a 66 pays qui pèsent pour à peine 7% des émissions de gaz à effet de serre, qui ont annoncé un accroissement de leur effort d'ici 2020. 66 pays qui sont d'ailleurs pas les mêmes, qui ont promis d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Que vous inspirent ces annonces, ce in? Qu'est-ce qu'il dit aussi peut-être du off, de ce qu'on ne voit pas et ce qu'on n'entend pas, Jean-Paul Maréchal?
Alors, moi, je partage que en partie l'analyse de Hamidahan, parce que je pense que s'il n'y avait pas de in, en réalité, les choses auraient progressé, on va dire, encore plus lentement, voire pas du tout. Et le fait que les pays se retrouvent tous les ans dans le cadre de COP, ça permet au moins de faire un point d'étape, et comme vous le disiez, voilà, de pointer en disant, voilà, la Pologne fait pas grand-chose, etc. Bon, ce qui est pas faux. Bon, je rappellerai que la Pologne, on a raison de mettre la pression sur la Pologne, c'est aujourd'hui le 21e État émetteur de CO2. Elle rejette 285 millions de tonnes de CO2 à comparer aux 10 milliards de tonnes de la Chine et aux 5 milliards de tonnes des États-Unis. Et ça renvoie au pourcentage que vous aviez signalé. C'est-à-dire que finalement, c'est un peu les vertueux qui se retrouvent, entre guillemets, évidemment vertueux aux États-Unis. Et puis, bah, ceux qui n'ont pas envie de faire grand-chose, ils restent à l'extérieur. D'où quand même l'utilité de négociations internationales et de forums où tous les pays se retrouvent, ne serait-ce que pour dire qu'ils sont pas d'accord. Parce que faut bien comprendre, hein, c'est que si on n'avait pas eu l'accord de Paris, et je conçois,
j'ai jamais remis en cause tout ça,
je n'ai jamais dit ça, non, mais là je réponds à la question qui m'a été posée. Je pense que la situation serait bien pire. Donc je pense qu'il faut aussi voir que ce type d'accord, la constitution du régime climatique depuis la Convention cadre des Nations Unies, puis ensuite le protocole de Kyoto, puis l'accord de Paris, crée quand même une dynamique.
Oui, bien sûr.
Et on voit bien qu'un certain nombre de pays ont changé de position.
Oui, mais ce que dit Hamidahan, c'est pas ça. Ce que dit Hamidahan, c'est il y en a finalement peut-être trop. Et d'une certaine manière, l'absence d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement à la réunion d'hier à New York sur le climat valide cette hypothèse-là. Donald Trump n'était pas là. Vous le dites vous-même. À quoi sert de faire des réunions si Donald Trump, si la Chine, si le Brésil ne sont pas là? Peut-être qu'il y a trop de réunions.
Je pense que la Chine est là, mais ça permet justement de dire que ces pays ne sont pas là.
Enfin, il était là, Xi Jinping,
c'est un ministre.
Il avait envoyé un ministre.
On peut beaucoup critiquer la Chine, mais enfin, là, on ne peut pas reprocher à la Chine de ne pas être un membre actif de l'accord de Paris.
Non, Jean-Paul Maréchal, mais je vous avais invité l'un et l'autre au moment où les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris. Et on avait senti à ce moment-là qu'il y avait peut-être l'ambition et le désir du côté de Pékin de se placer en leader dans l'expression diplomatie climatique, passez-la moi, je vais l'utiliser. On n'a pas l'impression que là, on les a pas vus comme leaders dans les négociations d'hier. Enfin, je sais pas, Jean-Paul Maréchal.
Alors, c'est compliqué parce que, je veux dire, s'agissant de la Chine, on a là une économie qui fait encore 5-6% de croissance, qui a pris des engagements, mais si je pense que c'est ce que je vous avais dit quand on s'était vu dans une émission précédente, qui sont en matière d'intensité, c'est-à-dire les émissions de CO2 ramenées au produit intérieur brut chinois. Et c'est ça, les engagements chinois. Faut bien comprendre ça. Bon, l'idée de stabiliser les émissions de CO2, c'est en 2030 pour la Chine, c'est pas avant.
Et c'est un engagement unilatéral, décidé par Pékin.
Oui, mais ça, je veux dire, c'est le propre des engagements climatiques, c'est-à-dire que la structure même de l'accord de Paris fait qu'on est dans des engagements qui sont des engagements unilatéraux.
Oui, mais justement, ces engagements sont insuffisants. Le problème, on ne doit pas discuter des années sur le fait que, oui, il s'est passé quand même des choses, ça a été lent, mais ça a servi. Bien sûr que ça a servi. Ce que je dis, c'est que nous sommes dans une course de vitesse. Et il se passe des choses, mais ces choses ne sont pas à la hauteur de la dégradation du climat, qui, elle, s'accélère. Et on voit bien, avec l'alerte des scientifiques, qu'ils demandent aussi d'accélérer les efforts. Et donc, c'est ça, cette pression. C'est ça, cette pression de Greta Thunberg. C'est l'idée que, maintenant, les choses s'aggravent. Et que il y a eu récemment des exercices de simulation de la communauté scientifique française qui ont montré qu'il n'était pas exclu que à la fin du 21e siècle, si l'augmentation des émissions se poursuit...
C'est un réchauffement de 7 degrés.
De 7 degrés, exactement. C'est terrifiant. C'est quand même terrifiant. Et je ne parle même pas d'apocalypse ou de collapse. Je ne crois pas à ces choses-là. Mais ça veut dire que les populations, les pays, etc. vont énormément souffrir. Et qu'il faut absolument qu'il y ait une conscience de au niveau des pouvoirs politiques du fait que c'est le problème numéro un aussi à adresser. Quitte à l'adresser, bien sûr, avec les questions de la crise économique et de l'injustice sociale. C'est très important.
Jean-Paul Maréchal, je vous laisse poursuivre. Ensuite, on évoque la question des financements pour regarder si ça bouge ou pas.
Oui, Jean-Paul Maréchal. Comme il s'agit de faire pression, et je suis d'accord avec toi, enfin, sur le fait qu'il y a une urgence climatique et qu'il faut faire pression. Moi, j'attends qu'on fasse pression et que Greta Thunberg, puisque manifestement, c'est un peu le centre de l'émission, fasse pression sur le gouvernement de Pékin. Fasse pression sur le gouvernement indien, avec des lobbies charbonniers, par exemple, en Inde, qui sont absolument importants. J'ai un article qui est paru il y a quelques jours dans The Economist, qui montre bien que, en réalité, le charbon, c'est quelque chose qui est massivement utilisé par des gouvernements asiatiques. Donc, on se retrouve un petit peu avec ce qu'on vient de dire et avec la réunion qui se tient en ce moment à New York, un petit peu comme moi quand j'étais au collège et au lycée, qu'il y avait beaucoup d'absences, c'était les présents qui se faisaient attraper. Bon, là, il se trouve que le discours aurait eu plus de sens s'il s'était aussi adressé nommément, je veux dire, à des pays qui sont massivement émetteurs, comme la Chine, comme l'Inde, comme la Russie, comme le Japon. Bon, voilà. Moi, maintenant, je pense que c'est très bien, malgré les critiques qu'on peut adresser au gouvernement russe, que la Russie vienne de ratifier l'accord de Paris. Parce que je suis tout à fait d'accord que ce type d'accord est insuffisant. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Ami sur le fait qu'il faut faire pression. Simplement, la pression citoyenne aujourd'hui ne peut pas avoir lieu dans des pays comme la Chine, qui ne sont pas des démocraties. Et donc,
Il y a des mobilisations pour des questions environnementales en Chine.
Oui, parce que comme
c'est même l'un des seuls sujets sur lesquels on peut manifester.
Parce qu'ils sont autorisés par le Parti communiste. Oui. Mais on voit bien que, alors, quand on me dit le climat, c'est le sujet numéro un.
C'est l'un des sujets numéro un. Directement des mobilisations citoyennes en Chine.
C'est pour les pays occidentaux. Ça devrait être.
C'est l'un des sujets majeurs. Mais l'un des autres sujets majeurs, je suis désolé puisqu'on parle de la Chine, c'est aussi toute la question de la démocratie.
Évidemment.
Voilà. Ben, parce que pour moi, je veux dire, si je lutte ou si je travaille sur les questions de changement climatique, c'est pour définir les conditions d'amélioration des conditions de vie des gens. Et parmi les dimensions de l'amélioration des conditions de vie, il y a évidemment la possibilité de participer au débat public, donc de vivre en démocratie.
Est-ce qu'on peut parler de la question du financement? Parce que, comme vous le disiez, Jean-Paul Maréchal, Greta Thunberg n'est pas le sujet de cette émission. C'est pas moi d'ailleurs qui l'a remis sur la table entre nous. C'était Amidan, mais c'était pas moi. Moi, ce que je pointais du doigt, c'était le fait qu'on s'attendait peut-être au moment de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris à ce que la Chine prenne une nouvelle place dans les négociations climatiques. Force est de constater que c'est pas franchement le cas. La question des financements. Il y a des annonces qui ont été faites. Une fois encore, on va regarder le in et le off, évidemment, pour reprendre votre expression. Il y a la Fondation Bill et Melinda Gates, la Banque mondiale et plusieurs gouvernements qui ont annoncé le déblocage de 790 millions de dollars à destination de petits agriculteurs touchés par le changement climatique. On a les 25 plus grandes banques nationales et régionales de développement qui ont annoncé le financement de projets climat pour un total de 1000 milliards de dollars à l'horizon 2025. Bon, comment est-ce que, Amidan, vous avez entendu ces annonces? Est-ce que vous sentez qu'on a un avancement notable sur le plan du financement ou en réalité, là encore, le sujet est peut-être ailleurs et défaillant?
Je crois qu'il y a eu une augmentation des financements et que on sait bien que, par exemple, dans le processus des COP et autour de l'accord de Paris, avant, après, cette question de financer les pays en développement, fonds verts, etc., pour l'adaptation au changement climatique et aussi un développement plus vertueux, parce que évidemment ils ont le problème du développement, en particulier les pays en développement, pas les grands émergents, mais les autres, ils ont besoin d'argent. Voilà. Je pense que quand la Chine demande de l'argent, on comprend qu'on est réticent, parce que c'est maintenant une grande puissance qui est, même si tout le monde ne s'est pas développé à l'intérieur de la Chine de la même façon, on n'a pas envie de lui donner à elle de l'argent. On a envie de donner de l'argent aux pays en développement pauvre, à l'Afrique, à des pays d'Amérique latine, pour qu'ils se développent de façon plus vertueuse.
Dites que la Chine en demande au titre
récemment. Tu me confirmeras, Jean-Paul.
Elle a demandé combien, pardon?
Je ne sais plus exactement. Je ne sais pas si elle a donné un chiffre précis.
D'accord.
Là, j'ai pas le chiffre là.
Mais elle a demandé là récemment pour lutter contre le changement climatique, etc. Elle a dit qu'elle voulait. Alors qu'avant, je dois dire que quand j'avais suivi vraiment très précisément les négociations, etc., et qu'il y avait cette demande en particulier autour de l'accord de Paris, c'était un truc très important. Hein, il fallait 1000 milliards par an à partir de 2020, justement. Eh bien, elle disait que elle était la, si vous voulez, c'était le grand groupe G77 plus Chine de tous les pays finalement qui étaient en développement et en émergence. Elle disait pas pour moi. Elle appuyait, mais elle disait toujours qu'elle était en dehors de ça. Et là, j'ai noté qu'elle. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'il faut voir aussi de façon stratégique. C'est-à-dire, par exemple, les pays en développés occidentaux doivent jouer un rôle majeur. Je pense au continent africain. Je crois que je l'ai déjà dit. Le continent africain, c'est stratégique pour la question du climat. Parce que tout le monde sait que la démographie n'est pas stabilisée, qu'il risque d'y avoir 1 milliard de personnes en plus en 2050 en Afrique, et que c'est là qu'il va y avoir une croissance incroyable. Donc si cette croissance, elle se fait sur les mêmes chemins que les pays développés et autant d'émissions, etc., c'est une catastrophe pour les seuils des 2 degrés ou des 3 degrés ou des 1,5 degrés. Enfin, ça va vraiment booster les émissions mondiales et l'accélération du changement climatique. Mmh. Et ça, je crois que le président Hollande et les gens qui dirigeaient l'accord de Paris était conscient. On parlait de ça. Or, rien n'a avancé vraiment là.
Jean-Paul Maréchal, si on reprend justement la question de l'accord de Paris, quand Donald Trump est sorti de cet accord-là, il a notamment dénoncé le fait qu'il était trop favorable à la Chine. Alors, il y avait évidemment des considérations internes derrière. Mais il a aussi dit ça. J'aimerais savoir si c'est totalement saugrenu comme argument, ou si, quelque part, il y a un peu de vrai, et que effectivement l'accord de Paris était peut-être favorable à la Chine.
Ah ben, c'est-à-dire que en réalité, le président Trump n'a fait que reprendre un argument qui avait été utilisé à l'époque de l'administration Clinton pour que les États-Unis ne ratifient pas le protocole de Kyoto. Donc, je veux dire, il y a absolument rien de nouveau dans l'argumentation. C'est-à-dire qu'en fait, il a repris un argumentaire consistant à dire que, à l'époque, effectivement, dans le cadre du protocole de Kyoto, je vais pas rentrer dans trop de détails techniques, mais disons que le protocole de Kyoto sépare les pays en 2 groupes, ceux qui, en le ratifiant, sont obligés de réduire leurs émissions, et ceux qui, en le ratifiant, ne sont pas tenus de réduire leurs émissions. Et la Chine faisait partie du 2e groupe, et les États-Unis du 1er. Et donc, l'argument qui a été avancé à l'époque, il y a une résolution votée à l'unanimité par les démocrates et les républicains, qui s'appelle la résolution Bird-Hagel, demandait explicitement à la Maison-Blanche de ne pas ratifier un protocole, en l'occurrence le protocole de Kyoto, qui, disait-il, ne va pas traiter les États-Unis comme certains pays en développement. Derrière certains pays en développement, évidemment, c'est la Chine.
Ouais. Vrai aussi pour l'accord de Paris.
Et alors, l'accord de Paris est différent. C'est-à-dire que l'accord de Paris, il est sur la base du volontariat. Bon, donc là, c'est d'autres choses. Et il se trouve effectivement que dans l'accord de Paris, les États-Unis, eux, s'étaient engagés à réduire leurs émissions de dioxyde de carbone de 26 à 28%, et que la Chine s'était simplement engagée à améliorer son efficience énergétique. Donc on avait des engagements qui étaient d'ampleur, qui étaient de nature différente. Mais pour revenir à votre question, ce qu'il faut savoir, c'est que le protocole de Kyoto prenait comme année de référence pour les émissions 1990. Il se trouve qu'en 1990, la Chine émettait à peu près 40% des émissions américaines. Et pourtant, en 1997, les États-Unis vont utiliser cet argument. Aujourd'hui, la Chine émet 2 fois plus que les États-Unis. Donc, en réalité, Trump, si vous voulez, reprend un argumentaire qui a été forgé à l'époque de l'administration Clinton, qui est effectivement tout à fait recevable, sauf si vous considérez que les pays riches comme les États-Unis doivent faire plus d'efforts que des pays qui sont en transition, en croissance, en ce que vous voulez, comme la Chine. Mais ça, vous voyez, après, ça renvoie justement à des conceptions de la justice internationale qui font évidemment débat.
Amidaon, là, on est au cœur du problème, cette question de la responsabilité commune mais différenciée. C'est en fait dans cette formule que depuis 92, les États se tirent dans les pattes.
C'est autour de cette idée-là. On a beaucoup discuté sur cette formule, comment elle allait s'appliquer, etc. Et effectivement, comme l'a rappelé Jean-Paul, le changement de la méthode bottom-up, c'est-à-dire on accepte le volontariat et chacun déclare, et puis ensuite on va essayer d'améliorer les déclarations, les engagements des uns et des autres. Donc ça, effectivement, à Paris, pour avoir l'accord, le premier accord, on a accepté que les pays comme la Chine ou d'autres, relativement importants quand même, ne fassent que des... faute de mieux, exactement. Maintenant, c'est aussi l'idée que les pays occidentaux, les pays développés, se sont développés antérieurement. Antérieurement, ils ont commencé leur développement au cours du XXe siècle, si ce n'est avant. Donc voilà. Aujourd'hui, je crois qu'il faut être conscient du fait qu'on ne va pas empêcher effectivement la Chine ou l'Inde de se développer. C'est terrible. On ne va pas les empêcher. Il faut, d'une part, faire pression pour que, d'un point de vue des technologies utilisées, des émissions de carbone, etc., il y ait un déplacement vers des technologies les moins émettrices possibles, transport électrique, etc., capture du carbone pour les mines de charbon. Capture du carbone à la source, parce que tous les rêves sur capter le carbone ailleurs, ça c'est de la blague, mais au moins là, et puis un investissement aidé par des investissements, et c'est là que quand vous avez abordé le problème de économique et financier, aider les pays qui ne se sont pas encore développés, qui vont l'être, parce que c'est aussi encore une très grande majorité de l'Asie, de l'Indonésie, etc., investir et se développer différemment, dans des investissements bas carbone.
Jean-Paul Maréchal, puis ensuite j'ai une question à vous poser sur la question de la neutralité carbone. Mais
pour revenir sur ce que, ou rebondir plutôt sur ce que disait Ami, c'est évident que il faudrait un peu mettre le paquet sur, par exemple, les panneaux solaires dans des pays qui sont très ensoleillés. Je veux dire, précisément, on parlait de désertec, parce que si on prenait toutes ces choses-là au sérieux, vous voyez, en réalité, on financerait l'installation de panneaux solaires en Afrique et pas en France. Vous voyez, bon, pourquoi? Parce que ce sont des pays qui ont besoin de produire plus d'électricité. Ce sont des pays ensoleillés où la production d'électricité par le solaire est moins intermittente que sous nos latitudes. Et donc, vous voyez, on a des chantiers absolument immenses qui s'ouvrent. Alors évidemment, après, le projet Desertec, c'est sur plusieurs pays qui entretiennent pas toujours de bonnes relations diplomatiques. Enfin bon, c'est compliqué aussi. Quant à l'idée de faire pression sur la Chine, je pense que là, il faut absolument oublier. C'est-à-dire que le tour de force de la diplomatie chinoise, ça a été de prendre, dans le cadre de l'accord de Paris, des engagements qui correspondaient étroitement à ses intérêts nationaux. Donc, ce qui d'ailleurs, si on ne l'avait pas fait, d'ailleurs, faut bien comprendre ça, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas critiquer les diplomates de manière trop obtuse. C'est que si on n'avait pas accepté ça, eh bien, il n'y avait pas d'accord de Paris, ou il y aurait eu un accord de Paris sans la Chine, ce qui évidemment n'aurait strictement aucun sens.
Sur la question des subventions, là, vous parlez des subventions par exemple dans le solaire ou dans l'éolien. Il y a un problème aussi à Midan qui visiblement qu'on n'arrive pas à surmonter, c'est celui de subvention des énergies fossiles. Ça, c'était un des grands sujets de l'accord de Paris, c'est comment s'organiser pour que les États cessent de subventionner le pétrole.
La Banque mondiale a subventionné les énergies fossiles.
Pourquoi on n'y arrive pas?
Continue de le faire.
Pourquoi on n'y arrive pas à sortir de ce cycle infernal, de cette folie des hydrocarbures?
Je pense que justement la pression est insuffisante.
C'est les lobbies.
Les lobbies sont énormes, les lobbies sont énormes. Par exemple, regardez des entreprises comme Total, qui se veut vertueuse. C'est la troisième entreprise internationale, pratiquement multinationale. Elle a une force énorme et elle n'arrête pas de nous dire que voilà qu'elle agit dans le bon sens, qu'elle est consciente des problèmes climatiques, etc. Et elle est certainement plus consciente que d'autres. Mais néanmoins, Il n'est pas question pour elle de ne pas, évidemment, elle a quand même milité pour explorer en Guyane les fonds sous-marins de pétrole. Pour elle, elle n'envisage pas du tout d'infléchir ses trajectoires vers d'autres investissements, etc. Pour le moment, il n'en est pas question. Et c'est vrai aussi des charbonniers du Texas, etc. C'est-à-dire ces grandes entreprises, elle n'envisage pas d'autres business models.
Mais ça, on comprend. Mais ce qu'on comprend moins, c'est pourquoi les États continuent de subventionner ces secteurs-là, Jean-Paul Maréchal.
Écoutez,
c'est
ça qu'on comprend moins. Je pense qu'il faut aussi regarder un peu la situation d'un certain nombre d'États. Bon, et c'est pour ça que tout à l'heure, je nuançais sur l'idée que le changement climatique, c'est un problème extrêmement important, mais qu'on ne peut pas dire que c'est le seul problème et qu'il n'y en a pas d'autres. Je veux dire, aujourd'hui, si vous prenez un pays comme l'Inde, une grande partie de la population vit dans la misère. Et on sait que l'une des voies de sortie en fait du sous-développement, en tout cas l'une des facettes de la sortie du sous-développement, c'est l'électrification. Bon, à partir de là, évidemment, lorsque vous êtes un pays qui est un pays charbonnier, qui a du charbon dans son sous-sol, et c'est aussi le cas de la Chine, naturellement vous allez utiliser la source d'énergie qui est la moins cher. Alors après, effectivement, je veux dire que les entreprises qui sont dans le secteur du pétrole, du charbon, etc., évidemment, ça les arrange. On voit pas d'ailleurs pourquoi est-ce que ces entreprises protesteraient. Mais faut quand même bien comprendre que ce que nous on pense dans ce studio à l'abri de l'économie de l'un des pays les plus riches du monde, c'est pas forcément ce qui a lieu ailleurs.
Alors je précise ma question, Jean-Paul Maréchal, pour les pays riches, pour les pays les plus riches, comment se fait-il qu'on continue de subventionner le pétrole ?
Alors là, je sais pas, parce que si vous voulez, lorsque vous achetez un litre d'essence, l'essentiel c'est des taxes, donc on peut pas vraiment dire que le pétrole est subventionné.
Oui, d'accord, mais vous pouvez taxer un produit, mais tout derrière en subventionnant un certain nombre d'investissements dans le secteur du pétrole.
Vous pensez à quoi ?
Non, on subventionne pas directement.
Voilà, le fait qu'il n'y ait pas de réponse prouve bien que c'est pas subventionné.
Je me souviens très bien d'un moment de l'accord de Paris, les chiffres qui étaient sortis sur les subventions des États, et en particulier en Europe et aux États-Unis sur le secteur pétrolier, c'était plusieurs centaines de milliards de dollars. J'ai pas le chiffre exact, mais c'était quelques centaines de milliards de dollars par an. Évidemment, je me trompe.
Effectivement, ce qu'on a subventionné énormément, c'est la recherche de nouveaux gisements, etc. Oui, c'est vrai. Maintenant, je crois que un des points, c'est ce que disait aussi Jean-Paul, la question la plus importante, ça dépend des pays. Hein. Pour l'Afrique, par exemple, c'est important. La Chine aussi, elle a mis le pied. Justement, par exemple, quand on voit la différence entre la Chine et maintenant l'Inde, parce que l'Inde aussi met le pied en Afrique, et tous ces pays, qu'est-ce qu'ils cherchent dans ce continent immense ? Eh ben, c'est des ressources, évidemment, des ressources à la fois d'énergie, parce qu'il y a de minerais, etc., et de pétrole, ça existe. Parce que tant la Chine que l'Inde n'ont pas de pétrole, ou très peu. Donc, ils achètent et ils veulent exploiter, ils veulent avoir des sources. Et donc, ça, et alors que nous, je crois que notre intérêt, en tant qu'occidentaux, etc., c'est d'aider la Chine, et c'est vrai aussi pour les questions migratoires qui vont se poser dans les décennies à venir, hein, on est quand même très près de l'Afrique, etc., c'est que l'Afrique se développe elle-même, pour elle-même, avec des moyens technologiques d'avenir compatibles avec la question du climat.
Jean-Paul Maréchal, on va s'intéresser dans un court instant aux négociations sur le futur traité mondial sur la haute mer. Si on resserre un tout petit peu les choses et qu'on regarde les choses en Europe, est-ce que vous diriez que ces dernières années, on va plutôt dans le bon sens et qu'on arrive à agir collectivement, ou est-ce que vous avez le sentiment que c'est plutôt tout à fait l'inverse et que d'une certaine manière, on va vers de plus en plus de chacun pour soi et qu'on a de moins en moins d'objectifs communs en matière environnementale ?
Alors, moi, j'aurais tendance à vous dire qu'on va trop lentement, mais dans le bon sens, hein, puisque s'il y a bien quand même une zone du monde qui a pris à bras-le-corps la question du changement climatique, et je pense sans lequel le régime climatique international aujourd'hui n'existerait pas, c'est bien l'Union européenne.
On a toujours été l'Union européenne, a toujours été la locomotive.
Depuis le début des années 90. Bon,
elle est toujours autant ?
Alors, elle est pas autant, d'abord parce que en réalité, elle a moins d'influence que d'autres pays. Il faut aussi bien comprendre ça. C'est-à-dire que, effectivement, dans les années 90, probablement que l'Europe avait plus d'influence qu'elle n'en a aujourd'hui. Mais en même temps, faut quand même pas oublier, c'est que les pays qui ont ratifié le protocole de Kyoto et qui sont donc dans l'annexe 1, ce dont je parlais tout à l'heure, ont tout de même réduit leurs émissions de 14%. Donc, c'est quand même pas non plus négligeable. Alors, évidemment, comme leur part relative...
Mais c'est leur puissance économique qui a aussi baissé, parce que la question de l'Europe, elle a eu un rôle très important entre quoi ? Entre 95 et 2006, 2007. Et voilà. Et après, un petit peu pour l'accord de Paris, parce que voilà, c'était la présidence française. Mais finalement, c'est dans la première décennie du 21e siècle que la Chine voit sa puissance émerger. Et aujourd'hui, la géopolitique est dominée quand même par le couple Amérique-Chine et pas par l'Europe.
C'est leur puissance économique relative qui a baissé, puisque en fait, tous ces pays-là ont quand même connu une croissance positive au cours de toutes ces années. Et donc aujourd'hui, effectivement, on se retrouve dans une situation où, c'est quoi en fait le leadership en relations internationales ? C'est un pays qui est capable de faire prévaloir des intérêts de long terme sur des intérêts de court terme. Bon, c'est pas le cas des États-Unis. S'agissant de la Chine, on s'interroge. Ça reste encore le cas de l'Europe, pour revenir à votre question, puisque si vous prenez l'accord de Paris, l'Union européenne s'est engagée à baisser de 40% pour 2030 ses émissions de CO2 par rapport à 1990. Donc, c'est quand même un objectif qui est nettement plus ambitieux que celui qu'on peut noter dans d'autres pays.
Jean-Paul Maréchal, ami d'Ahan, on est dans cette série consacrée aux grands chantiers diplomatiques. Le climat est évidemment l'un des grands chantiers, peut-être sinon le principal chantier diplomatique. On va s'intéresser à la haute mer. Fin août, s'est achevée la troisième session de négociation sur un texte juridiquement contraignant concernant la gouvernance de l'océan et l'encadrement de ses ressources. Une prochaine session se tiendra au printemps prochain, mars-avril 2020. Et si les diplomates saluent des avancées, les ONG, elles, regrettent des manquements et des lenteurs. Bonjour Julien Rochette. Julien Rochette, est-ce que vous m'entendez ? Julien Rochette, est-ce que vous m'entendez ? Non, visiblement, ce n'est pas le cas. Alors, on va peut-être tout petit peu poursuivre sur les questions qu'on évoquait. Vous me faites signe, hein, Régis, si jamais le téléphone revient. Évidemment, sur les questions européennes, vous disiez, finalement, aujourd'hui, l'Europe ne pèse plus.
Elle pèse encore, bien sûr.
Plus beaucoup.
Mais... Je pense qu'elle est moins unifiée dans ce qu'elle veut sur cette question du climat. Ces divisions, les difficultés internes politiques à l'Europe, je crois,
font qu'elle ne sont plus, elle n'est plus la locomotive qu'elle
est aussi plus nombreuse l'Europe. Enfin, il y a plus de pays aujourd'hui. Et ce qu'on pouvait faire avec un nombre, et donc on est à des stades de développement qui sont pas forcément exactement les mêmes, et avec des intérêts nationaux qui sont pas les mêmes. Le lobby charbonnier existe évidemment en Pologne et
dans d'autres pays d'Europe.
Et dans d'autres
pays,
parce qu'on parlait de la Pologne. Oui. Et évidemment, en France, le lobby charbonnier n'existe pas. Donc, de fait, on ne peut pas comparer, vous voyez, des pays qui sont dans des situations aussi différentes.
Alors, ça y est, on a retrouvé Julien Rochette. Est-ce que vous nous entendez ?
Je vous entends très bien.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes juriste et vous êtes directeur du programme Océan de l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer, Julien Rochette, par expliquer un petit peu les objectifs de ce futur traité mondial sur la haute mer. Concrètement, qu'est-ce qu'on veut faire ? Après, on va voir les difficultés, mais qu'est-ce qu'on veut faire ?
Alors, ce qu'on veut faire, c'est donner un régime juridique adéquat à la moitié de la planète, qui aujourd'hui bénéficie d'un régime un peu lacunaire, dès lors qu'en fait, les textes qui ont été adoptés sur les océans au cours des dernières années n'avaient pas pris en compte l'importance de la biodiversité qui pèse en haute mer et des menaces très importantes causées par le développement des activités humaines. Donc, ce qu'on veut faire, justement, c'est enlever ce décalage qui existe aujourd'hui entre le droit et les menaces qui pèsent sur cet espace.
Donc c'est des aires marines protégées, c'est les ressources génétiques marines, c'est les études d'impact environnemental, ou c'est encore le renforcement des capacités de transfert de technologie. Alors on s'est mis d'accord sur un avant-texte. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans cet avant-texte et s'il a la moindre chance d'être adopté en l'état ou avec des évolutions ?
Alors effectivement, la chose positive, c'est que depuis la dernière session de négociation, un avant-texte a été préparé par la présidente de la négociation. Donc on a un texte sur lequel négocier. Le texte, il est sans surprise, dans le sens où il reprend les quatre piliers du futur accord que vous venez de mentionner, c'est-à-dire les aires marines protégées, les ressources marines génétiques, les études d'impact environnemental, le renforcement des capacités et les technologies marines, et propose un certain nombre d'options qui sont aujourd'hui ouvertes à la négociation. Alors, ce qu'on a vu lors de la dernière session de négociation, c'est des États qui travaillent et qui négocient sur les différents éléments du texte, donc ça c'est extrêmement positif. Le draft, donc cet avant-projet, va être mis à jour suite à ces négociations et les délégations devraient le recevoir avant la fin de l'année, ce qui servira de base à la prochaine session de négociation en 2020.
Alors, quels sont aujourd'hui les pays qui bloquent dans ces négociations? Est-ce que, à l'instar d'un Donald Trump qui refuse d'aller au sommet hier, même s'il a fait un passage très rapide, est-ce que les États-Unis font partie des pays qui bloquent? Est-ce que la Chine est encline à signer un éventuel traité mondial sur la haute mer? Est-ce que, comment la France, elle aussi, se comporte? Enfin, c'est quoi le paysage, là?
Alors, moi je dirais pas à ce stade qu'il y a des pays qui bloquent. D'abord parce que l'ensemble de la communauté internationale a adopté la résolution ouvrant des négociations. Donc cette résolution qui date de 2017, elle a été adoptée par l'ensemble des États. Donc sur le papier, tout le monde est d'accord pour aller de l'avant. Évidemment que tous les États n'ont pas le même intérêt, n'ont pas la même volonté d'aller en avant sur tel ou tel dossier et qu'il y a un certain nombre de blocs de négociations, je dirais. Alors, l'Union européenne, depuis le départ, hein, même depuis une bonne dizaine d'années et le début des discussions informelles avant les négociations formelles, s'est toujours prononcée en faveur d'un futur accord, d'un accord international contraignant, et a toujours poussé les autres États à aller vers l'ambition en matière notamment de conservation et de création d'aires marines protégées. Autre bloc de négociation important, c'est le groupe du G77, donc les pays du Sud, qui eux aussi veulent un accord international parce qu'ils en ont tout intérêt et qu'ils ont tout intérêt à ce que la haute mer soit gérée de manière collective. Mais eux, ils poussent un peu davantage sur les questions d'équité, c'est-à-dire rajouter une dose d'équité dans le régime juridique de la haute mer. Donc ça, historiquement, ce sont deux grands blocs qui poussent en faveur d'un traité ambitieux. Après, évidemment, il y a d'autres États qui, aujourd'hui, participent aux négociations, discutent, négocient, mais qui ont un certain nombre de réticences à avancer sur tel ou tel point. Par exemple,
lesquels ?
Alors, il y a un certain nombre d'États qui, historiquement, ont refusé que, par exemple, la pêche soit inclue dans le champ spécifique des négociations. Les États pêcheurs, tels l'Islande pendant longtemps, la Norvège, le Japon, etc., ont toujours été un peu réticents à intégrer cet élément-là. Les États-Unis, eux, n'ont pas ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, donc la grande convention pour les océans. Ils sont néanmoins à la table de négociation. Ils poussent aussi pour, par exemple, la création d'aires marines protégées, mais sont beaucoup plus réticents à avancer sur le dossier des ressources marines génétiques. Donc c'est cette complexité, en fait, et c'est cette multiplication des positions qui fait que, forcément, la négociation prend un peu de temps.
Vous restez avec nous, hein. Je voudrais encore vous poser quelques questions, et notamment sur ces fameuses ressources marines génétiques que vous venez d'évoquer. Mais d'abord, je voudrais faire réagir nos deux invités, Amida et Jean-Paul Maréchal, sur ce sujet du traité mondial sur la haute mer. Est-ce que finalement, ce qu'on discute pour la mer, c'est la même chose que pour le climat? On voit une Europe qui est plutôt encline à aller de l'avant, un G77 également. Au fond, c'est comme pour le reste.
Oui. Je trouve. Je connais pas très bien l'ensemble des éléments, mais c'est un peu comme le reste. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas ce qu'il y a sur la pêche électrique en eau profonde. C'était un point sur lequel l'Europe a mis beaucoup de temps à avancer. Bon, je ne sais pas comment c'est dans l'état du traité. Par exemple, sur la question des plastiques en haute mer. Comment est-ce qu'on va protéger, enfin avancer sur ce pour réduire cette question, par quel dispositif? Parce qu'on sait que évidemment ça a des conséquences aussi sur toute la chaîne de la haute mer.
Je suis pas sûr que ça soit discuté.
Vous
confirmez, Julien Rochette, c'est des éléments qui sont discutés, ça?
Alors effectivement, non, le plastique n'est pas discuté parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'histoire de la gouvernance des océans, elle est très ancienne. C'est-à-dire qu'on a commencé à négocier des textes il y a vraiment de nombreuses décennies. Donc aujourd'hui, à part pour la haute mer, où là on a un véritable vide juridique qu'il faut combler, pour le reste, on a à peu près tous les instruments à disposition. Et donc la plupart du temps, l'objectif, c'est non pas de créer des nouveaux droits, mais d'appliquer ce qui existe.
Alors, Julien Rochette, faut parler de ces ressources marines génétiques, parce que l'ambassadeur français chargé des océans, qui s'appelle Serge Ségura, visiblement est assez inquiet sur cette question-là. Il dit que assez rapidement, le concept de patrimoine mondial de l'humanité va faire une éruption brutale lors du prochain round de négociations à propos des ressources génétiques marines. Il explique que pour le moment, l'idée d'accorder à ces ressources le statut de patrimoine mondial a été un peu mis de côté par les États pour que justement on puisse faire émerger un fameux avant-projet, un prétexte, mais il a beaucoup de craintes s'agissant de cette question du statut de patrimoine mondial de l'humanité de ces ressources marines génétiques. Qu'est-ce qui pose problème, Julien Rochette ?
Alors, en résumé, pendant très longtemps, on ne connaissait pas l'importance de la biodiversité des grands fonds marins. Et grâce aux découvertes scientifiques, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'organismes, d'écosystèmes, d'habitats qui pouvaient se développer sans photosynthèse, à des profondeurs extrêmes, à des températures extrêmes, à des pressions extrêmes. Et donc, ces organismes sont extrêmement intéressants pour la recherche, et notamment la recherche médicale. C'est-à-dire qu'on peut assez vite breveter, extraire un certain nombre de ces ressources marines génétiques, les breveter et en faire des médicaments. Et c'est la promesse des médicaments de demain et des futurs bénéfices économiques qu'on peut en retirer qui pose aujourd'hui problème. Pourquoi ? Parce que cette activité, elle n'est pas régulée. C'est-à-dire qu'elle échappe totalement au droit. Donc tout est à construire dans la régulation de cette activité. Ce qui veut dire que d'un côté, on a des puissances qui ont la technologie et qui abritent des industries pharmaceutiques, qui seraient plutôt enclines à dire que la régulation doit être limitée et le principe de liberté devrait prévaloir. À l'inverse, les États du G77 vous disent en fait, ces médicaments-là, ces futurs médicaments sont des espaces qui appartiennent à tout le monde, donc il faut un système de redistribution des avantages tirés de ces ressources marines génétiques. Et ils veulent donc conférer à ces ressources marines génétiques le statut de patrimoine commun de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'en fait, comme on le fait aujourd'hui pour les ressources minérales du fond des mers, on donnerait en gestion les ressources marines génétiques à un organisme international qui chercherait ensuite à en redistribuer les bénéfices à la communauté internationale tout entière. Et c'est cette opposition dogmatique qui effectivement pose aujourd'hui problème dans les négociations.
Et on peut la surmonter ? Parce que de ce que vous nous décrivez là, on a quand même l'impression qu'on va droit vers le blocage.
Non. En tout cas, on peut le craindre, mais en même temps, il y a des motifs d'espoir aussi, et notamment portés par l'Union européenne, qui serait d'essayer de dépasser un peu ce clivage, qui est un clivage extrêmement, encore une fois, dogmatique, qui puise sa source dans l'histoire aussi du droit de la mer. L'idée, ça serait plutôt d'essayer de construire des solutions pragmatiques qui dépasseraient un peu le clivage idéologique pour aboutir à une situation concrète et à un accord final.
Merci beaucoup, Julien Rochette.
Merci à vous. Now gather round people, listen to my song. About something most of you'd agree is just wrong. There ain't no place left on this earth to discover. So please don't frack my mother.
Don't frack me. Don't frack me.
Merci également à nos deux invités qui étaient présents avec nous. Amidan, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappellerai notamment cet ouvrage que vous aviez écrit avec Stéphane Écoute, Gouverner le climat, quel futur possible pour l'intégration, 20 années de négociations internationales qui était paru aux presses de Sciences Po. Jean-Paul Maréchal, merci également. Je rappellerai La Chine face au mur de l'environnement, point d'interrogation également. C'était aux éditions du CNRS. On mettra évidemment tout ça sur le site de France Culture. L'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour, cher Brice.
Bonjour, Florian.
Alors, deux livres viennent de paraître sur les populismes d'Europe centrale. Hier, vous nous avez présenté celui de Roman Krakowski, Le populisme en Europe centrale. Que peut-on penser du second, celui de Marx Erwan Gastineau, Le nouveau procès de l'Est ?
On a pris l'habitude, un peu facile, et je ne m'exclus pas, de critiquer les partis et les leaders populistes de l'autre Europe à partir de nos propres catégories intellectuelles, de notre propre histoire occidentale, si l'on veut. Et sous cet angle, les partis tels que le Fidesz d'Orban ou le PiS polonais apparaissent comme des anomalies politiques, des transgressions aux normes européennes telles que nous les concevons. En effet, ces partis, sitôt devenus majoritaires et parvenus donc au gouvernement, ils s'attaquent aux contre-pouvoirs, en particulier aux juges et aux médias. Ils respectent mal les droits des minorités et tendent à présenter leurs opposants comme des ennemis à la nation. Ils utilisent la domination qu'ils exercent sur les parlements pour modifier en leur faveur les règles du jeu électoral. Mais c'est en cela que le livre de Gastineau est intéressant. Ces politiciens et leurs électeurs se voient eux-mêmes comme bien davantage fidèles à l'esprit européen que nous ne le sommes nous-mêmes. Contrairement à ce qu'on dit parfois, ils plébiscitent leur appartenance à l'Union européenne. Le grand sondage réalisé l'an dernier dans 5 pays d'Europe centrale par un certain nombre d'institutions comme la Central European University ou l'Austrian Society for European Politics le démontre. À part le cas très particulier des Tchèques, un tiers de la population quitterait volontiers l'Union européenne, l'appartenance à l'UE est partout considérée comme bénéfique par plus de 80% de la population. Et pas seulement pour des raisons bassement économiques. Les peuples des nouveaux membres sont persuadés que l'UE est, pour leur pays, un facteur de stabilité et un relais de puissance sur la scène internationale. Tous placent en tête des valeurs qu'ils disent chérir, la démocratie et les droits de l'homme. Ils ne sont nullement favorables aux régimes autoritaires semi-dictatoriaux tels que ceux de Poutine ou d'Erdogan. Mieux, l'indépendance de la justice jouit d'un fort niveau d'adhésion à l'Est.
Mais alors Brice, qu'est-ce qui différencie l'échelle des valeurs de l'Europe centrale de la nôtre ?
Clairement, l'attachement à la notion de société culturellement homogène. Une valeur plébiscitée par 79% des Hongrois et par 85% des Slovaques. Et c'est là que l'essai de Gastineau s'avère éclairant. La culture politique de ces petites nations, malmenées par l'histoire, absorbées dans des empires multinationaux, parfois relativement tolérants comme celui des Habsbourg finissants, mais d'autres fois franchement exterminateurs comme le Troisième Reich, privilégie la souveraineté populaire plutôt que les normes internationales. Elle valorise la capacité de décision collective au détriment de l'extension des droits de l'individu. Dans cette région du monde, les nations ont préexisté aux États, ce sont les peuples qui ont construit leur État-nation et non pas l'État qui a regroupé des peuples afin d'en faire une nation, comme c'est le cas de notre propre histoire. Or, l'existence de ces États, elle a été constamment menacée et leur inclusion forcée dans l'Empire soviétique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale a été vécue sur place comme une tentative pour les arracher à la culture européenne, voyez Kundera. C'est pourquoi ils valorisent cette culture qu'ils nous accusent, nous, de s'aborder sur l'autel de la mondialisation et du relativisme culturel. Aujourd'hui, ces peuples se sentent menacés dans leur droit à la continuité historique. C'est ce sentiment de fragilité, de vulnérabilité qui les pousse à refuser de manière très majoritaire l'accueil en nombre d'immigrés extra-européens. Or, l'Union européenne, prétend Gastineau, a un peu trop tendance à renouer avec la tradition papiste d'autrefois. Oui, elle prétend imposer à la potestas des États sa propre auctoritas. Elle aurait tendance à privilégier la gestion des flux, humains ou financiers, au détriment de leur contrôle. Alors on pardonnera à cet auteur, Gastineau, les nombreuses erreurs qu'il commet. Isaiah Berlin n'était pas, comme il l'écrit, un philosophe allemand. Il était né dans l'Empire russe, en Lettonie, et il est devenu très tôt citoyen britannique. Et la fameuse opposition dont il est l'auteur entre la liberté négative et la liberté positive ne recoupe nullement la distinction faite par Benjamin Constant entre liberté des anciens et liberté des modernes. Comme le croit Gastineau, on ne pinaillera pas non plus trop l'auteur à propos d'orthographe de mon ami Timothy Snyder, qu'il cite en faisant une faute à son prénom et une autre à son nom, ni sur sa lecture hâtive de la pensée captive de Miwash. On mettra ses légèretés d'écriture sur le compte de sa passion d'écrivain. Beaucoup plus discutable me semble sa présentation du philosophe Leszek Kołakowski comme un penseur conservateur et chrétien. Ou bien il l'a mal lu, ou bien nous n'avons pas connu le même homme.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain.